France Culture. Les midis de culture. Marie Sorbier.
Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans les midis de culture. À 13h, je recevrai Loïc Prigent, célèbre critique de mode qui a fait paraître chez Grasset 1000 milliards de rubans, la vraie histoire de la mode. Mais dans les midis, c'est la critique qui ouvre le bal dans notre carnet de bandes dessinées qui figure dans la sélection officielle de la 52e édition du Festival d'Angoulême qui aura lieu fin janvier. Il sera question de princes transformés en grenouilles et de chevalières d'un côté et de météorites et de fin du monde de l'autre, deux façons de conter le monde contemporain en plongeant le lecteur dans des univers très singuliers. Alors avec moi, autour de la piste, ce midi, Catherine Robin, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes grand reporter et critique BD à Elle et Victor Massé de l'Épinay, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste, bienvenue à tous les deux. Il était une fois un prince malheureux car il a été transformé en grenouille et quand le monarque tombe, catastrophe, la démocratie pourrait bien arriver. Ajoutez une pincée de chevalière, un dragon, une sorcière et un ménestrel et vous obtenez une fable dessinée tout en rondeur et en couleurs. Le titre, Balade avec deux ailes, évoque donc plus la poésie musicale que la promenade, quoique il sera aussi question de quête, car vous vous en doutez, la princesse est bien enfermée en haut d'un donjon et la fronde gronde dans les tavernes. Alors on commence ce tour de table par un premier avis, Catherine Robin. En quelques mots, est-ce que cette balade vous a été agréable ?
Ah, mais c'est l'album le plus réjouissant de cet hiver, une espèce de conte médiévalo-féministo psychédélique. Voilà, plein d'énergie, plein d'esprit et plein de drôleries, donc tout à fait jubilatoire.
Et vous, Victor, en quelques mots, vos premières impressions ?
Catherine m'a enlevé le mot réjouissant de la bouche, enfin l'a pris avant moi, donc en effet, j'ai adoré ce festival de drôleries, d'intelligence, de couleurs et de... Voilà, et c'est une très très belle découverte.
Alors, Catherine, peut-être pour commencer, de quoi elle parle cette BD ? Alors, j'ai dit en quelques mots dans mon introduction une situation de départ, mais c'est un peu plus complexe que ça. Il y a plusieurs types d'histoires dans une.
Alors, je ne sais pas si c'est très intéressant de résumer chacun des personnages, parce que comme l'album dont on va parler après, il y a vraiment une galerie de personnages qui vont souvent par deux. Mais moi, ce dont j'avais envie de parler en premier lieu, et c'est assez inattendu pour une bande dessinée, c'est le son de cette bande dessinée, parce qu'il y a vraiment un travail sur les dialogues exceptionnels dans ce livre. Et cette BD rappelle combien la bande dessinée est un art sonore aussi, ce qui est assez contre-intuitif parce que bon, c'est un art de l'image fixée et que le son est souvent secondaire dès lors qu'il y a une image, même au cinéma d'ailleurs. Mais elle décide de faire du son. D'ailleurs, je pensais qu'on aurait en introduction Roger Glover et Love Is All, parce que son dessin ressemble beaucoup au clip, au fameux clip de ce Love Is All très psychédélique. Mais pour en revenir au son, elle a tout un travail autour de à la fois graphique et sonore, ce qui fait que
Dites le son, c'est de la musique ou c'est autre chose?
Alors c'est à la fois le langage dessiné et les onomatopées, et il y a aussi une présence de musiciens. Vous parliez du ménestrel tout à l'heure. Il y a aussi ces deux grenouilles qui sont des espèces de chœurs qui accompagnent ce prince transformé en grenouille, ce prince pas du tout charmant transformé en grenouille, et qui sont une espèce de chœur comme ça qui l'accompagne tout au long de ses aventures, qui encore une fois sont assez difficiles à résumer. Mais là où je en fait, orthographier et donner une forme aux onomatopées et au langage dessiné, c'est quelque chose, c'est un talent en soi en bande dessinée. On retranscrit de façon phonétique les sons et les mots, et elle y parvient très très bien, parce qu'elle va faire une espèce de mélange. Elle invente un nouveau langage de québécois, de marseillais, on a du vertecag, je m'en cague, d'occitan peut-être, de vieux français, et elle le mélange au langage courant d'aujourd'hui, ce qui donne des choses. On a aussi du oups, c'est gênant, le bâtard, meuvez-vous le der, chesbignez-vous, vite fait, ou je vous défonce. Et ça, son astuce, c'est de rajouter des S et des Y pour complexifier un peu la lecture. Ce qui fait que parfois on lit, on a un peu de mal à décoder, mais il suffit de le mettre dans la bouche Et tout à coup, c'est drôle. Et notamment, il y a une scène où ce fameux prince rencontre une salamandre. Donc on lit cette scène. On voit des os circonflexes, on voit des
inversions grammaticales.
Voilà. Et on se dit, attends, mais ça donne quoi en fait si on le lit? Et là, on se met à lire et là, tout à coup, on arrive, miracle, à faire l'accent québécois quand on n'y est jamais parvenu.
Ce qui veut dire, pour poursuivre sur ce son, que quand on la lit dans sa tête ou à voix haute, en fait, il y a toute une sonorité qui débarque, c'est ça que vous dites?
Absolument.
Là où elle
oui,
réussit
oui. Et c'est ça où j'insiste sur le fait que ça parle vraiment du son dans la bande dessinée. Et moi, je me suis toujours interrogée, il y a beaucoup de dessinateurs de bande dessinée qui sont aussi des musiciens ou qui sont des mélomanes, Cabu et le jazz, enfin il y en a plein, hein, Guibert, Berberian, Tronchet, tous ces gens ont un rapport à la musique très particulier. Alors c'est une question que je pose, pourquoi est-ce que dans la solitude de leur atelier ils écoutent beaucoup de musique? Est-ce que mais je pense plutôt que c'est un levier immense pour rendre vivant le dessin.
Victor, est-ce que vous êtes d'accord avec cet univers sonore avant de vous parler du dessin?
Eh ben absolument d'accord. Moi, la première page de ce livre m'a fait, comme on dit, un peu la semaine, quoi. C'est-à-dire, quand j'ai reçu le livre, je l'ai ouvert, j'ai lu Goap, Goap, éloquentation des petites grenouilles, grenouilles, à la veille de pelisse et à la souple gambeite, gambeite. Sens de salamandre, aucun ennemi, mamie. Ce sont de belles grenouilles à l'œil globuleux, Goap. Cette nouvelle version était patente, quelle modernité! Et ça, enfin, ces espèces de grenouilles, en effet, qui semblent sorties du clip de Roger Glover, Love Is All, et de la pub pour le Sironimo aussi, qui la reprenait quand j'étais petit. C'est cette première page, je me dis, mais ça m'a fait vraiment mourir de rire. Je l'ai montré à tout le monde trouvait ça très bien. Et je me suis dit, bon, bah, qu'est-ce que ça va donner la suite? Et la suite, en effet, alors ce langage, l'orthographe et la façon dont les dialogues sont amenés, c'est une des grandes réussites et un des grands ressorts comiques de cet album.
C'est-à-dire le faux vieux français? Parce que là, vous
oui,
nous
c'est
faites
ça.
Avec un accent un peu
mais
paysan.
Oui, parce qu'il y a des Y partout, en effet. Alors, ça va chier avec un Y à la place du I, comme ça, je sais pas si ça... Mais c'est partout, c'est tout le temps, et ça va aussi quand même avec un dessin qui est extraordinaire.
Alors oui, est-ce que vous pourriez nous décrire le dessin? Il est pas simple, parce qu'il est... J'allais dire, il prend vraiment toute la case quand il se déploie. Il est un peu élastique, non?
Oui, il est élastique. Il est, pour moi d'abord, extrêmement maîtrisé et assumé. C'est-à-dire qu'il est vraiment... il cherche pas... enfin, on sent une autrice qui est, je trouve, très mature. Moi, je la découvre avec ce livre, qui est son premier grand livre. J'ai pas vu ses premiers travaux. Elle avait fait des petites bandes dessinées, auto-éditées, des petites choses dans des fanzines. Mais c'est là quelqu'un qui maîtrise parfaitement ce qu'elle fait. Ce sont les dessins, c'est d'abord peut-être des couleurs très franches, en aplat, très, oui, pas vraiment des couleurs psychédéliques, mais des beaux bleus, des beaux verts. C'est un album qui éclate de couleurs. Et puis le dessin, c'est, comme vous l'avez dit, quelque chose d'élastique, des personnages qui sont pas toujours immédiatement lisibles, parce que parfois ils n'ont pas d'yeux, parfois ils n'ont pas de nez. Parfois
ils ont des têtes patatoïdes, des
énormes bouches. Il y a quelque chose qui est mais hyper expressif toujours. Alors on peut parler un peu. Enfin, ça ressemble à rien, même si en le lisant, j'ai d'abord pensé à Fmur et au génie des alpages par les couleurs, par certains décors. Et aussi par certains personnages, il y a une femme nue qui aide une sorcière.
Ah, la jardinière.
Voilà, la jardinière qui ressemble au chien du génie des alpages parce qu'elle est marron avec cette espèce de chevelure qui ressemble aux deux oreilles du génie des alpages de Fmur. Mais j'ai aussi pensé à des choses un peu moins connues, mais qui étaient dans cette époque un peu foisonnante de Pilote, au Sergent la Terreur de Friedman et Twiss. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Des couleurs là pour le coup très psychédéliques et ces bulles déformées, ces phylactères avec les queues de phylactères qui sont tortillonnants, qui rentrent presque dans la bouche des personnages. Ces grands cris, des têtes qui sont parfois on a du mal à voir si on voit plus que des dents ou plus qu'un nez. Il y a un ménestrel en particulier qui a une espèce de patate avec des oreilles et deux petits points et puis qui
le ménestrel qui est en fait le conseiller en communication hein. D'ailleurs elle est très
le maestro en voilà. Communication
qui ouais, vante exactement. Les mérites de la chevalière et de la princesse,
c'est ça. Mais alors j'ai vraiment trouvé que cette la narration était d'une immense fluidité, que les personnages dont il faut pas en effet développer chacun, mais c'est tout un monde de références, des contes et de l'univers de la chevalerie et du conte de fées, le donjon, le dragon, les tourtes empoisonnées, les philtres, les princes transformés en grenouilles. Et tout ça dans un truc ultra moderne en fait et toujours amusant et vraiment je trouve que c'est un très grand plaisir de voir une jeune autrice. Enfin, je sais d'ailleurs pas quel âge a Camille Pote, mais enfin de découvrir une autrice, j'allais dire sans caricaturer, qui n'arrive pas avec une autofiction en noir et blanc, un peu triste, un peu, mais qui nous donne quelque chose de complètement jouissif et de complètement drôle comme ça.
Catherine, vous avez évoqué dans vos premières impressions un conte ou une fable féministe. En quoi ce livre-là est féministe ? Est-ce qu'il l'est ?
Ben, d'une part, les personnages essentiels et principaux sont toutes des femmes, voilà, généralement. Et son travail à Camille Pote, ça a été de faire du neuf avec du vieux et toujours avec l'exigence de rire. C'est-à-dire, elle inverse les codes du conte traditionnel tout en gardant les archétypes. Et donc, le prince a bien été transformé en grenouille, mais il est loin d'être charmant. La chevalière, c'est une chevalière qui va délivrer la princesse qui est dans sa tour comme réponse, mais qui n'a pas du tout la tête de réponse. Elle a plutôt la tête d'une héroïne de Ghost World avec les cheveux bruns très courts au carré. Et elle a pas le sourire aux lèvres comme toute la plupart des princesses. Enfin, elle va vraiment, mais c'est quelque chose qui est à l'œuvre aujourd'hui un peu partout. Elle va œuvrer à la déconstruction de ces contes traditionnels. C'est quelque chose qu'on fait beaucoup aujourd'hui sur la figure et la place de la femme dans ces contes traditionnels, hein, la Belle au bois dormant, les Blanche-Neige, etc. Et elle parle de féminisme, mais pas seulement. Elle parle aussi de démocratie, de populisme.
Sur cet aspect plus politique, peut-être. Le roi tombe, enfin le prince transformé en grenouille ne peut plus régner, et donc il y a une fronde en fait qui s'élève parmi les villageois.
C'est une sorte d'utopie qu'elle met en place pour qu'à la fin de l'histoire on se dise qu'il est que finalement est-ce que comme on nous l'a fait croire longtemps, nous les petites filles, il serait vraiment fascinant de vivre dans un conte de fées. Bah finalement, à la fin de l'histoire, on se dit, est-ce qu'il serait pas plus sympa de vivre sur un nénuphar dans une mare en chantant des chansons avec son luth, en faisant pipi debout par ailleurs. Mais non, il y a vraiment, il y a cette dimension. Mais encore une fois, c'est la dimension féministe qui domine le couple de le seul personnage dessiné qui ressemble à peu près à ce qu'il est, c'est la sorcière. Elle a les cheveux ébouriffés, elle a un long nez pointu, un petit bouton sur le nez. Sinon, tous les autres, en effet, ont des corps, des vêtements. Elle revient aussi sur le vêtement qui enserre les femmes, qui les contraint. Cette princesse, on n'en a pas parlé dans l'énumération que vous avez fait verbale, il y a cette princesse Bathilde, qui s'appelle princesse Bathilde, comme si on était enrhumée. Ça aussi, c'est très drôle, qui est tout enserrée dans ses vêtements. Je reviens juste deux secondes sur le dessin, mais c'est vrai que c'est à la fois un dessin qui fait référence à tout l'univers des années 70 et cette typographie liquide, etc. Mais c'est aussi à l'œuvre chez les jeunes dessinatrices féministes d'aujourd'hui, parce qu'il y a tout un tas de jeunes dessinatrices qui ont cette écriture élastique. Je sais pas si vous serez d'accord, Victor, mais Émilie Gleason, Léa Muraviec, Chloé Wary, elles sont toutes dans cette esthétique et sans que j'arrive à me l'expliquer vraiment, mais de personnages et de scènes et de déformation des perspectives.
D'une fluidité, en fait.
Oui, d'une fluidité. Alors, est-ce que c'est simplement le plaisir qu'elles ont à dessiner? Parce que je pense que c'est un grand plaisir. On voit vraiment qu'elle a pris du plaisir à dessiner, parce que c'est partagé, cette jubilation à dessiner. Mais est-ce que dans le geste, ça, j'en sais rien, je ne suis pas dessinatrice, mais est-ce que dans le geste, c'est plaisant ou est-ce que c'est autre chose? J'ai du mal à savoir.
Victor, un dernier mot en quelques secondes. Pour vous aussi, c'est une BD féministe et politique ou quel est le mot finalement qui la résumerait le mieux ?
Ben pour moi, le mot qui la résume le mieux, c'est quand même drôle. C'est-à-dire que bien sûr que c'est féministe et politique, mais parce que on est dans notre époque et que Camille Pote est de son époque. Et évidemment, quand on relit des contes de fées, de toute façon, on les relit à l'aune des concepts tels qu'ils sont aujourd'hui. Donc on sait bien que un donjon, un dragon, un mariage, tout ça, c'est aujourd'hui, ça se remet en cause. C'est lourd de symboles, c'est lourd de lectures psychanalytiques possibles. Mais pour moi, c'est d'abord quelque chose qui est drôle. C'est pas le conte qu'on va déconstruire et reconstruire pour faire passer un message. Mmh. Je dirais vraiment pas que c'est une bande dessinée à message. C'est une bande dessinée qui est faite pour se tordre de rire. Enfin, moi, c'est l'effet que ça m'a fait avec et qui est d'aujourd'hui. Et c'est un grand plaisir de lire des choses comme ça.
Allez, tordons-nous de rire. Donc, Balade avec deux L de Camille Pote, apparu aux éditions Atraville. Allez, on continue ce début d'année parce que Victor, vous avez un grand coup de cœur à nous partager.
Oui, un grand coup de cœur. Donc, vous l'avez dit au début, Marie, aujourd'hui, on parle de deux livres qui sont en sélection officielle au Festival d'Angoulême. Et moi, j'ai pris un coup de cœur dans la sélection patrimoine du Festival d'Angoulême de cette année. Sélection patrimoine, c'est toujours une très belle sélection, petite, avec 7 ou 8 livres. Et toujours des auteurs à découvrir, à redécouvrir, souvent des auteurs étrangers, souvent des traductions, des découvertes vraiment d'œuvres étonnantes. Cette année, on a Trina Robbins, on a Linda Barry, on a Alex Stott, je ne vais pas tous les citer, mais c'est des auteurs importants et pour autant qu'on ne connaît pas toujours. Moi, j'en ai découvert là-dedans. Et parmi ces 7 ou 8 livres, j'ai choisi un livre de Raymond Briggs, un auteur britannique, que je connaissais, enfin je ne savais pas que je le connaissais, puis quand j'ai cherché, j'ai vu que c'était celui qui faisait Les Sacrés Pères Noël, et j'avais un livre, Les Vacances du Sacré Père Noël, qui était un des livres que j'adorais quand j'étais petit, et que j'ai pas vu depuis très longtemps. Et ce livre s'appelle Quand souffle le vent, il est paru aux éditions Tanibis, qui sont des éditions dont il faut saluer le très beau travail, ils font toutes sortes de choses, et ce livre est magnifique. D'abord c'est la couverture qui m'a frappé, une couverture divisée en deux. Dans la partie haute, on voit une toute petite vignette avec deux petits personnages, des petits vieux anglais dans leur cottage qui mangent un petit steak frites en écoutant la radio, un petit transistor, qui ont l'air d'être un vieux couple, un peu amoureux, un peu engoncé dans leurs petites habitudes. Et en dessous, dans la deuxième partie de la couverture, sur un fond bleu et sombre, inquiétant, un énorme sous-marin qui est comme une menace. Quand souffle le vent, en fait, ça raconte l'histoire de ce petit couple d'anglais qui est chez eux. Donc ça se passe au début des années 80, on le sait pas trop, mais... Et ils entendent que la guerre arrive, c'est la guerre froide, c'est le moment où la guerre froide se réchauffe beaucoup en Grande-Bretagne, et que la guerre arrive et que la menace nucléaire arrive. Et donc ils construisent consciencieusement un abri anti-atomique chez eux en suivant le guide de survie de l'habitant que le gouvernement a envoyé. Et puis à un moment, la bombe arrive et on assiste à la suite de la bombe arrive. Explose, et c'est absolument déchirant de tendresse et d'humanité de voir ce petit couple qui en fait meurt sans le savoir. Bon, je dévoile un
peu. Vous dévoilez.
Mais c'est un livre avec un dessin enfantin d'une grande tendresse, des couleurs très belles et une réflexion. C'est pas un livre anti-militariste avant tout. C'est d'abord, je trouve, un livre sur l'amour, la façon dont on vieillit ensemble. Et c'est un livre magnifique que je conseille à tout le monde.
Merci beaucoup pour ce coup de cœur.
On dirait que c'est un météore.
Mais c'est énorme.
Pour moi, c'est une comète.
Le voilà qui tombe, c'est une boule de feu.
C'est pas un météore, ça c'est sûr.
Il y a une comète qui fonce droit sur la Terre.
Êtes-vous sûr que ce soit un météore? Sa chute m'a semblé curieuse.
C'est vrai, on aurait dit un obus qui tombait.
C'était une comète. Elle se dirige droit vers la Terre. Et elle va sans doute la percuter. On est en train d'essayer de vous dire que notre planète est sur le point d'être détruite.
Changement d'ambiance pour cette deuxième bande dessinée, Les Météores, histoire de ceux qui ne font que passer, de Jean-Christophe Devenet et Tommy Rudolphy, ça paru chez Delcourt. C'est un récit choral où Floyd, Gary, Charlie ou encore Holly poursuivent leur vie alors qu'une météorite se dirige vers la Terre. Pas de super-héros ici, mais des gens ordinaires devant la fin qui approche. Alors Victor, en quelques mots, votre avis sur Les Météores?
Eh bien, un livre qui m'a beaucoup ému, beaucoup touché, qui est une grande réussite, je pense, un exercice parfaitement maîtrisé par les deux auteurs et qui a une bande dessinée d'atmosphère et de personnages qui colle à la peau et qui laisse une réflexion et une mélancolie très profonde.
Catherine, est-ce que vous avez aussi ressenti cette mélancolie-là ?
Oui, je partage totalement l'avis de Victor, à la fois d'un point de vue graphique et chromatique, c'est une grande réussite, et tout autant que par le récit choral, ce qui n'est jamais facile. Et là, on n'est jamais perdu, on est plutôt emporté, et en plus, il y a un vrai jeu de contraste, à la fois dans la forme et dans la narration, qui rend vraiment très intéressante cette lecture.
Alors Victor, là encore, on va peut-être pas pouvoir détailler tout ce récit parce qu'il est assez riche, mais peut-être raconter en quelques mots comment il est composé. Parce que je parle de météores, mais finalement, c'est pas vraiment ça le sujet de ce livre-là.
Eh ben, les météores, ça se prend d'abord en deux sens. Il y a une météorite gigantesque qui fonce vers la Terre. Là, on l'apprend par les médias au fur et à mesure du livre. Donc, un peu comme le livre que je viens de conseiller, c'est un livre d'une apocalypse qui arrive. Et les météores, c'est aussi toutes ces personnes qui sont dans le livre. C'est un récit choral, il y a une quinzaine de personnages, ou une vingtaine peut-être de personnages, non, une douzaine, quinzaine de personnages, qui ont des vies très ordinaires dans l'Amérique du Nord, sous la neige, et qui ne font que passer. Moi, quand je l'ai lu, j'ai pensé vraiment au Cowboy Fringant et à cette chanson des Cowboy Fringants qui s'appelle Les Étoiles Filantes. Alors là, c'était les météores. Je me suis dit c'est ça. Puis en fait, je me disais ça me fait beaucoup plus penser à une chanson des Cowboy Fringants qui s'appelle L'Amérique pleure.
Je sens que vous avez très envie de nous en chanter un peu.
Je sais pas si j'ai envie de vous la chanter. Voilà, je peux vous faire un tout petit bout. Comment ça fait? C'est si triste que des fois, quand je rentre à la maison et que je parque mon vieux camion, je vois toute l'Amérique qui pleure dans mon rétroviseur. Il y a vraiment, je l'ai très mal chanté parce que je me suis planté au début, mais c'est pas grave. Il y a une mélancolie sourde qui parcourt ces pages avec peut-être un personnage un peu principal, celui qu'on voit sur la couverture, dont je veux quand même dire un petit mot. On le voit arriver dans la première scène. C'est une sorte de colosse un peu gigantesque et qui fait penser un peu au personnage de Lenny dans Des souris et des hommes, qui a son copain Georges, et lui il a son copain Gary. Il parle tout le temps de Gary. Il est inquiétant. On le voit arriver. Il y a une jeune femme qui est à l'arrêt de bus à 8h du matin dans la nuit, qui le voit arriver, qui compose le 911, c'est-à-dire le numéro d'urgence sur son portable, en disant qu'est-ce que c'est que ce type. Et pendant tout le récit, on le voit, c'est un personnage extrêmement gentil, un peu simplet. Mais on se demande si quelque chose va arriver, s'il va avoir un éclat de violence, parce que il a un léger handicap et on ne sait pas bien comment il peut réagir. Mais en fait, c'est un monde qui s'écroule. Peu importe que la météorite arrive, ce monde est un peu en déliquescence. Tous ces personnages ont des vies compliquées. Et ce personnage de Floyd au milieu agit un peu comme un révélateur, puisqu'il a des blancs, il a des absences. Et en fait, ces absences, on se rend compte que tous les personnages en ont au fur et à mesure du livre. Des moments où on se plonge dans des souvenirs, dans des rêveries, dans des fantasmes, dans des choses qui sont un peu des refuges. Tout ça est dans un rythme très maîtrisé. C'est une bande dessinée difficile à décrire, mais je vais laisser Catherine le faire.
Oui, Catherine, peut-être très concrètement, à quoi ça ressemble? On a l'impression qu'on feuillette ces pages-là, qu'on retrouve le même camailleux de gris bleuté, un peu sépia, dans tout l'album. Il faut dire qu'il fait 300 pages, c'est aussi un album assez conséquent.
Oui, mais qui est lu très avec on les voit pas passer ces 300 pages. À quoi ça ressemble? C'est un format à l'italienne, comme on dit, c'est-à-dire en horizontal, ce qui fait c'est une histoire très cinématographique. Alors moi, j'avais pas les Cowboys Fringants en tête quand je l'ai lu. J'avais plutôt à la fois du Fargo, parce que c'est dans un paysage très enneigé, le film des frères Coen, ou du Jim Jarmusch un petit peu. D'ailleurs, ils remercient à la fin, ils ont tout une batterie de remerciements aux auteurs américains qui les ont inspirés, parce qu'on pense vraiment que c'est un livre américain. Si ça pourrait être un livre écrit par des auteurs américains. Sur la forme, en effet, il y a ces couleurs passées dans les gammes de gris, de vert un peu glauque, de bleuté. C'est la nuit, c'est l'obscurité, c'est le crépuscule, mais pas du tout rougeoyant. Ça renvoie à la nuit comme un phénomène naturel, l'alternance jour-nuit, mais c'est aussi la nuit de l'humanité qui est en train de s'abattre sur cette sur la Terre. Parce que pour moi, le livre, c'est vraiment un double mouvement. Alors je ne sais pas si c'est opposé ou contrasté, je parlais de contraste tout à l'heure, mais pour moi, il y a ce mouvement inéluctable de cette météore, ce géocroiseur, comme on l'appelle, j'aime bien ce mot, ce géocroiseur qui fonce vers la Terre. inéluctablement, sans qu'on puisse en faire quelque chose, ils essayent d'envoyer des bombes. Enfin, mais tout ça est à la marge parce que finalement, ce qui est au centre du livre, c'est comme vous le disiez, Victor, c'est ces gens qui eux peuvent encore avoir un petit peu de prise sur leur vie. Ils peuvent les questions existentielles qui les traversent, elles ne sont pas le fruit de cette menace qui pèse au-dessus d'eux. Leurs questions existentielles, elles sont du simple fait de vivre, en fait, de leur petite existence. Moi, ça m'a plus fait penser à Foule sentimentale d'Alain Souchon.
Ouais. Alors, il faut la chanter, s'il vous plaît.
D'autant plus qu'il y a ce contraste aussi d'un point de vue formel sur ces extérieurs très enneigés et une partie de l'histoire qui se situe dans un grand magasin d'aménagement. Voilà, qui est donc Aeki, en verlan, vous retrouverez la marque jaune et bleu. Et en fait, c'est aussi une forme de questionnement autour de la société de consommation et pourquoi est-ce que on pense que se réfugier, puisque, enfin, je veux pas trop en dire, mais que finalement le sens de notre vie pourrait être celui d'avoir le confort. Enfin, je suis pas très claire, pardonnez-moi, dans ce que je sais pas si Victor vous
voulez. Non, en fait, moi j'ai trouvé, il y a quelque chose qui m'a vraiment intéressé, il nous reste vraiment très peu de temps, mais c'est cette tension entre la non-urgence, c'est-à-dire la vie quotidienne de ces gens qui travaillent dans ces magasins de meubles ou dans des restaurants ou des aides à domicile. C'est des gens, voilà, d'une classe moyenne, et l'urgence de la fin du monde, enfin cette météore qui va tomber d'ici quelques heures ou quelques jours. Est-ce que vous l'avez ressenti comme ça?
Oui, très oui, rapidement. C'est ce contraste, et c'est pourquoi on vit ce qu'on vit, pourquoi est-ce qu'on de quoi sont faites nos existences, ouais. Qu'est-ce qui reste quand tout va
et le fil,
quand
le
tout va se terminer
relie.
Et c'est quelque ouais. chose de très ténu et de très beau. Il y a des gens qui mettent du sens dans ce qu'ils font. Et puis il y en a qui n'en trouvent plus, qui préfèrent se laisser aller. Alors que les existences, objectivement, quand on les voit côte à côte, les unes tissées dans les autres, ne valent pas mieux les unes que les autres. Il y a une dame très gentille, une vieille dame qui meurt, qui dit à un moment, moi j'aime bien les livres où il n'y a pas de personnages principaux, il n'y a que des personnages secondaires, on a tous un rôle à jouer. Et voilà, tout le monde a son rôle à jouer. Il y en a qui arrivent à mettre encore un peu de sens. Et moi j'ai beaucoup aimé les scènes de nourriture, où on voit ça tout, parce que cette lumière est très terne dans le livre. Tout est un carton, on a l'impression que les gens n'arrivent plus à trouver de plaisir, et pourtant il y en a qui continuent, il y a des ados, on ne sait pas trop ce qu'ils vont devenir, et puis il y a cette météorite qui arrive.
Les météores, histoire de ceux qui ne font que passer, c'est un très beau titre d'ailleurs, apparu aux éditions Delcourt. Merci à tous les deux, vous pouvez retrouver toutes les références des ouvrages dont on vient de parler et le podcast de cette émission sur la page des Midi de Culture sur le site franceculture.fr.